Radio Cité Genève.
Émission Entre les âges.
Bienvenue à l'émission Entre les âges, émission de musique classique présentée par François-Xavier Poisa sous le prisme du rapport entre les générations. Aujourd'hui, notre invité s'appelle Christian Chamorel. C'est un collègue, c'est un pianiste concertiste. Il joue beaucoup en Suisse, mais il joue aussi dans toute l'Europe, dans tout le monde entier, jusqu'en Chine, au Japon, en Amérique, au Canada. Il est également directeur artistique de plusieurs festivals et professeur de piano. Christian Chamorel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être notre invité aujourd'hui. Vous allez nous partager un petit peu votre parcours. Vous allez nous faire écouter quelques extraits musicaux que vous avez choisis, notamment provenant de votre dernier enregistrement en solo qui s'intitule Mendelssohn Piano Walks. Il s'agit de préludes et fugues, du rondo capriccioso, des études, une fantaisie, des romances sans parole de Mendelssohn sous le label Calliope. Alors, je me suis un peu renseigné. Vous avez déjà fait au moins 5 enregistrements, dont 2 avec Mendelssohn. Des affinités avec ce compositeur ?
Oui, alors absolument. Mendelssohn, c'est un compositeur qui m'a accompagné depuis le début, même comme enfant. Je me souviens que j'étais absolument admiratif devant en fait la virtuosité, le côté, on va dire, très sain et très tonique de cette musique. Et avec le temps, j'ai appris à connaître aussi d'autres facettes de ce compositeur qui, encore maintenant, me semble malheureusement méconnu et mal jugé. Il y a chez Mendelssohn en fait une polyvalence qui est assez frappante. Et il y a aussi un aspect parfois très sombre, très tendu, très douloureux, qu'on a tendance à évacuer. Et je voulais, en fait, notamment dans ce dernier enregistrement, aussi mettre en avant des pièces qui ont ce côté très, très chargé, très dramatique.
En effet, Mendelssohn, c'est un compositeur très, très riche, dont on ne connaît pas toutes les facettes. Et nous allons en parler. Mais d'abord, écoutons tout de suite un extrait de cet enregistrement. Il s'agit du Prélude et Fugues, opus 35, numéro 5, interprété par Christian Chamorel. Thank you.
Radio Cité Genève.
C'était un extrait du dernier enregistrement en solo de Christian Chamorel, pianiste, avec des œuvres de Mendelssohn. Il s'agissait d'un prélude et fugue de Mendelssohn. Alors Mendelssohn, c'est beaucoup de poésie, c'est beaucoup de virtuosité. Hein, dans le milieu, on dit que ça tricote beaucoup. Il y a certains chefs-d'œuvre qui sont vraiment connus du tout grand public, hein, comme le concerto pour violon, et puis il y a aussi d'autres chefs-d'œuvre qui sont un petit peu moins connus, mais tout aussi géniaux, comme par exemple l'Octuor, qu'il a composé quand il avait 16 ans, rivalisant avec Mozart de précocité et de génie. Christian Chabrol, est-ce que Mendelssohn est un compositeur célèbre, mais toutefois au génie sous-estimé?
Oui, alors complètement. Par exemple, vous citez l'Octuor qu'il a composé à 16 ans, qui fait partie effectivement de ces pièces qui sont connues du grand public. Mais par exemple, on oublie qu'une année après, il a composé un deuxième quatuor absolument extraordinaire qui a, je sais pas, 50 ans d'avance, je dirais, stylistiquement sur ce qui se faisait à l'époque. Et je trouve vraiment que c'est un compositeur qui, malheureusement, est mal jugé. On dit, par exemple, que c'est un compositeur qui a ce charme mélodique. Et c'est vrai qu'il y a cette évidence, hein, il y a ce génie mélodique chez Mendelssohn qu'on entend notamment dans ses fameuses romances sans parole. Mais on parle pas assez, par exemple, du traitement révolutionnaire de l'orchestre. Ou alors, pour rester dans les formes pour le piano, il y a des œuvres qui sont très, très ambitieuses au niveau de la construction, qui ont aussi un côté parfois même un peu impressionniste, qui sont très descriptives. Et tous ces aspects-là, je trouve qu'il faut, les réunir, il faut les enregistrer, il faut les jouer, il faut les présenter au public, peut-être même aussi avec un petit peu de pédagogie pour montrer à quel point c'est une œuvre qui est en fait très pertinente, qui était très moderne à l'époque finalement, assez décapante même parfois, alors qu'il y a ce cliché encore de nos jours qui circule, qui dit que Mendelssohn serait un compositeur plutôt tourné vers le passé, avec qui utiliserait des formes d'expression, on va dire, peut-être pas convenues, mais en tout cas pas très révolutionnaires, et c'est absolument pas vrai.
Pourtant, on vient d'entendre un prélude et fugue. Quand on entend prélude et fugue, on pense tout de suite à Jean-Sébastien Bach, donc il y a quand même une filiation très forte.
Alors tout à fait. Alors là, il se trouve que ce sont des pièces qui regardent un peu vers le passé. Il faut quand même rappeler que Mendelssohn a été un grand défenseur, enfin qu'il a quasiment à lui tout seul redécouvert l'œuvre de Bach. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut rappeler. Il a dirigé, je crois qu'il avait 20 ans, la Passion selon saint Matthieu, à l'époque où Bach en fait était complètement tombé en désuétude, on va dire. Donc ça, c'est un aspect effectivement de son activité. Ceci dit, même dans ses œuvres qui effectivement se basent sur des modèles qui sont existants, le modèle du prélude, de la fugue, ce sont aussi des pièces, d'ailleurs là je pense qu'on l'a entendu, qui ont un caractère qui est vraiment typique de Mendelssohn, à savoir ce côté effervescent, bouillonnant on va dire, de sa musique. Et je trouve justement dans ces pièces, ce qui était remarquable, c'était la synthèse qu'il faisait entre justement le respect de ces formes du passé et l'injection de quelque chose qui, une espèce d'urgence on va dire, qui est propre à son art.
À vous écouter, on vous sent vraiment en terrain connu. Quand un artiste comme vous fait plusieurs enregistrements avec les œuvres d'un seul compositeur, est-ce que c'est créer une intimité avec une image, avec un esprit? Est-ce que vous avez l'impression de passer votre journée avec Mendelssohn?
Je pense que si je suis revenu à Mendelssohn, c'est vraiment parce que j'avais encore des choses à dire, et je pense que c'est un compositeur qui m'occupe en fait au quotidien pratiquement. C'est vrai que j'écoute beaucoup sa musique, un peu comme Mozart d'ailleurs. Ça fait vraiment partie de ces compositeurs qui ont été des révélations en fait dès l'enfance, qui ont participé d'une certaine façon à la naissance de la vocation en fait de musicien. Et puis finalement, ce sont des compositeurs qui m'ont accompagné jusqu'à maintenant, alors qu'on peut avoir par exemple des amours, on va dire, fugitives avec certains compositeurs, n'est-ce pas? Des compositeurs qui tout à coup vous marquent peut-être à l'adolescence, je sais pas, un Rachmaninov par exemple, ou un Chopin, et tout à coup, bah voilà, ça fluctue, on est moins en phase avec ce style quelques années plus tard. Alors que, en ce qui me concerne en tout cas, Mozart, Mendelssohn par exemple, pour citer ces deux-là, ont été des constantes vraiment.
Vous parlez d'amour, vous parlez de choses à dire, comme dit le proverbe, la musique commence là où s'arrêtent les mots. Alors écoutons tout de suite de votre enregistrement, Mendelssohn, la romance sans parole, opus 30, numéro 1, Andante Espressivo.
Thank you.
Radio Cité Genève.
Que de poésie avec cette romance sans parole de Mendelssohn, interprétée par Christian Chamorel, pianiste, qui est aujourd'hui notre invité. Alors, Christian Chamorel, vous avez étudié à Lausanne, à Munich, à Zurich, principalement le piano, mais vous avez aussi beaucoup étudié le lied. Et on vient d'entendre une romance sans parole. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs qu'est-ce que c'est que le lied ?
Alors, le lied, je l'ai surtout découvert, c'est vrai, à Munich. Je l'ai étudié avec Helmut Deutsch, qui est un pianiste, un accompagnateur, si on veut, de très grand renom, une espèce de pape, on va dire, dans ce domaine. Donc, le lied, c'est simplement la mélodie allemande, mais à vrai dire, je ferai aussi l'élargissement en parlant de la mélodie française. Donc, ce sont ces deux choses-là, en fait, le lied allemand, la mélodie française, ce sont deux genres qui m'ont beaucoup occupé et qui m'occupent encore beaucoup maintenant. D'ailleurs, mon festival, le Mont Musical, est un festival donc, qui a lieu au Mont-sur-Lausanne, est un festival qui met un petit peu au centre de ses préoccupations, justement, le vocal, donc l'art lyrique, mais sous la forme du lied ou de la mélodie, parce que ce sont des genres qui sont encore de nos jours peut-être un peu, pas négligés, mais qu'on met aussi dans une boîte alors que ça leur correspond pas tout à fait. C'est un peu la même chose qu'avec Mendelssohn d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Ce sont des genres qui ont un petit peu cette tendance à être vus comme quelque chose d'un peu hermétique, de difficile d'accès en fait. Alors que au contraire, c'est justement dans le lead et dans la mélodie, je pense qu'on peut trouver quelque chose de très très direct à partager avec le public.
Cette connaissance, cette étude du lied allemand et de la mélodie française, qu'est-ce que ça vous apporte à vous en tant que pianiste ? Quelle est la plus-value que vous pouvez décrire ?
Alors, je pense qu'en termes purement pianistiques, le fait de travailler beaucoup avec des chanteurs, ça fait qu'on a un soin du legato, donc du jeu lié, en fait, hein, du rapport entre les notes qui peut être accru par rapport, je dirais, à quelqu'un qui n'aurait pas cette affinité avec la voix. La plupart des grands compositeurs pensent en termes vocaux, n'est-ce pas ? Mozart, Schubert, même Beethoven, finalement, parfois. Ce sont des compositeurs qui ont d'abord la voix en tête et parfois, on a tendance à oublier cette évidence, je trouve. Lorsque j'entends certains pianistes qui, peut-être par ailleurs, sont vraiment des interprètes brillants, je me dis parfois, ah bah tiens, là, il faudrait peut-être un peu plus de cet élément lyrique. Donc, à ce niveau-là, je pense que j'ai beaucoup appris. Et après, le fait justement de faire du lead, à savoir d'approfondir le lead chez Schubert, chez Schumann, chez Brahms, etc., c'est bien sûr apprendre un pan très important de leur production. Et je pense que du moment qu'on veut jouer ces compositeurs, en particulier les compositeurs romantiques allemands, ce sont que des compositeurs qui ont mis le lead au centre de leurs préoccupations. Et donc, ça me paraît aberrant de contourner, en fait, ce genre-là pour les approcher. Et même des compositeurs comme Liszt, par exemple, on a tendance à l'oublier, mais Liszt a créé un nombre vraiment très, très important de mélodies et de leaders. Et donc, je pense que, voilà, c'est une école très saine, et puis c'est un approfondissement de leur style qui est vraiment précieux.
Et pourtant, notre instrument, c'est un instrument à percussion, c'est des marteaux qui viennent frapper des cordes. Comment est-ce qu'on fait chanter un instrument comme celui-ci ?
Justement, je pense qu'il y a l'aspect mécanique, n'est-ce pas ? On sait bien sûr que l'attaque de la touche peut être plus ou moins rapide, lente, peut être caressante. Il y a même, on va dire, le doigt qui peut finalement... L'angle, on va dire, d'attaque de la touche peut être différent suivant ce qu'on veut faire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, je pense que c'est justement cette idée d'avoir en tête le vocal ou bien peut-être un instrument comme, je ne sais pas, un instrument à vent ou alors même un très beau violon. Et d'une certaine façon, avec cet état d'esprit, on arrive à transformer ce qu'on produit au piano.
Donc au piano, il y a une part d'état d'esprit, comme vous dites, de création mentale qui va influer sur le son.
C'est évident, je pense même que c'est notre arme la plus efficace. C'est en fait c'est pas la visualisation, vu que c'est sonore, mais je veux dire, il faut avoir cette image sonore en tête lorsqu'on joue, n'est-ce pas ? Et ce qui est marrant, c'est à quel point le simple fait d'avoir cette nouvelle configuration mentale, on va dire, a un effet absolument immédiat sur le jeu, sur le son. Et d'ailleurs, je le vois aussi dans mon travail avec mes élèves, parfois une image, simplement une l'idée, par exemple, d'une ligne mélodique qu'on étire, d'une ligne horizontale, c'est quelque chose qui fait beaucoup plus que de dire à votre élève « Attention, troisième mesure, il y a un accent, attention, là tu ne sens pas tellement ce rapport entre les deux notes. » Donc c'est quelque chose qui est valable pour les professionnels comme pour les élèves.
Vous parlez de vos élèves, vous avez aussi parlé d'un grand professeur que vous avez eu pour le lied allemand. Écoutons tout de suite une étude de Mendelssohn, l'étude 104 numéro 1. Et justement, c'est comme son titre l'indique, il s'agit d'un morceau avant tout très technique, hein, où on va explorer une facette technique de l'instrument pianistique. Et pourtant, c'est une mélodie tout à fait chantée. Je trouve que vous la chantez très très bien, malgré la difficulté technique du morceau. Alors tout de suite, cette étude de Mendelssohn par Christian Chamorel. C'était l'étude opus 104 numéro 1 de Mendelssohn par Christian Chamorel dans son dernier enregistrement Mendelssohn Piano Works. Alors Christian Chamorel, vous avez évoqué vos élèves, vous avez évoqué un professeur. Nous venons d'écouter une étude. Les études dans le monde de la musique classique, c'est un peu la voie royale du rapport entre les générations. Comment est-ce que vous voyez ce fait d'avoir eu des grands professeurs et maintenant d'être vous-même professeur, d'avoir des élèves? Comment est-ce que vous allez leur transmettre tout ce que vous-même avez reçu pendant vos études?
Je pense qu'effectivement, on se base pas simplement sur notre propre expérience d'élève, n'est-ce pas? C'est ça qui est intéressant. On a eu des professeurs parfois très marquants. En tout cas, moi, j'en ai eu plusieurs qui m'ont vraiment façonné, on va dire, comme musicien. Et je dirais que c'est quelque chose qu'on conserve, enfin qu'on a en soi, et puis qu'on donne au travers des concerts et qu'on donne au travers de sa pédagogie. Et en fait, c'est un processus que je trouve fascinant parce que finalement, il y a bien sûr des choses qu'on a envie de transmettre telles qu'on les a reçues, mais il y a aussi peut-être des choses qu'on va transmettre d'une façon différente. C'est-à-dire qu'on va peut-être se dire, ah bah tiens, maintenant que j'y pense, il y a 20 ans ou il y a 25 ans, je me souviens de cette situation avec mon professeur. Peut-être qu'à ce moment-là, il n'a pas été particulièrement, qu'est-ce qu'on va dire, perspicace ou je sais pas, je veux dire, il y a quand même la pédagogie, c'est quelque chose de très subtil et de très complexe. Et donc, je pense qu'il y a aussi des expériences qu'on a faites en tant qu'étudiant qui sont des contre-exemples. Et du coup, il faut s'en inspirer avec, bien sûr, aussi toutes les choses positives qu'on a reçues.
Alors, un exemple de ces contre-exemples.
Je pense qu'il y a par exemple le danger lorsque vous avez une certaine autorité sur l'élève. Par exemple, un élève qui viendrait chez vous et puis qui vous connaît comme interprète. Ça m'arrive de plus en plus, en fait, d'avoir des élèves qui viennent spontanément frapper à ma porte en me disant « Voilà, je vous ai écouté dans tel et tel récital, j'ai vraiment envie de prendre des cours avec vous, etc. » Lorsque ce lien se crée, alors c'est très précieux, bien sûr, parce que du coup, vous savez qu'il n'y a pas beaucoup de travail à faire en amont, en fait, pour gagner la confiance de l'élève, mais du coup, vous avez une telle autorité qu'il est facile, en fait, d'influencer l'élève outre mesure, par exemple, de le marquer un peu trop avec, par exemple, votre interprétation. Et il s'agit aussi de laisser à l'élève sa part de personnalité, sa part de développement. Donc là, il y a quand même un exercice d'équilibriste, on va dire, à effectuer. Et en fait, en ce moment, j'y pense parce que justement, je me remémore des scènes, en fait, alors que j'étais étudiant, en me disant, ah, mais tiens, là, je pense que j'ai été finalement trop influencé par une approche. Et du coup, hein, il faut un petit peu de distance ensuite pour faire sa propre cuisine, sa propre synthèse, on va dire.
Donc, un équilibre à trouver entre l'élève et vous, mais aussi entre vous et vous-même.
C'est-à-dire
une partie de vous qui pourrait être trop autoritaire ou trop influent, peut-être, profitant de votre de l'admiration qu'aurait l'élève pour
oui,
vous.
Oui, absolument. Le problème, c'est que il est facile, du coup, d'utiliser cet ascendant qu'on a un peu sur l'élève d'une façon qui n'est pas très saine. Donc, il y a vraiment un travail de recul, en fait, une distance, en fait, à prendre par rapport à ça. Et là, je pense que c'est quand même l'expérience qui fait son œuvre. Je pense qu'avec le temps, on apprend à gérer ça et on apprend finalement à identifier, en fait, ces frontières qu'il ne faudrait pas franchir.
Comment est-ce que vous envisagez l'avenir de la musique classique chez les jeunes générations?
Alors justement, moi je suis assez confiant par rapport à ça, parce que s'il est vrai que mon public habituel, on va dire, est quand même relativement âgé, on va dire, mais mes élèves le sont pas par la force des choses, et en fait leur passion me rassure, c'est-à-dire que j'ai quand même de plus en plus d'ailleurs des jeunes qui viennent, et ce ne sont pas par exemple des enfants qui sont peut-être un peu poussés par leurs parents ou par un contexte, on va dire, culturel ou social, ce sont aussi parfois des jeunes qui tout à coup écoute une pièce. En l'occurrence, j'ai remarqué que Chopin était pour ça très très efficace. Et il tombe amoureux, en fait, de cette pièce. Il veut l'apprendre immédiatement. Et parfois, ça fonctionne. J'ai le cas d'élèves qui tout à coup, après quelques semaines de travail, à l'aide des tutoriels, par exemple, qu'on trouve sur les réseaux sociaux ou que sais-je, apprennent une pièce vraiment complexe. Et donc, ces coups de foudre. Pour la musique classique, ils arrivent à intervalles réguliers et c'est ça qui me fait penser que finalement, peu importe le contexte, peu importe l'évolution de notre société aussi, ce genre de choses se reproduira à l'infini.
Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plus confiant dans le fait que les jeunes s'intéressent à la musique classique par un chemin personnel, par justement un coup de foudre personnel, plutôt que par des entreprises sociales de mise en valeur.
Je le pense. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu mes plus grands succès, on va dire, en tant que pédagogue. C'était quand même avec des élèves qui découvrent par eux-mêmes quelque chose. Alors après, il s'agit d'élargir cet horizon parce que souvent, ce coup de foudre peut être assez ciblé et puis peut ne concerner, par exemple, qu'une pièce ou un compositeur. Et après, c'est le travail du pédagogue d'élargir un peu ça et puis de montrer, de tisser des liens, en fait, entre ça et puis tout le reste. Et finalement, c'est ça qui se passe au bout du compte. C'est l'élargissement de cet horizon et faire en sorte que l'élève finalement puisse appréhender la musique classique dans toute sa profondeur. Enfin, c'est presque impossible, bien sûr, mais je veux dire, on peut au moins faire en sorte qu'il ait les clés, d'une certaine façon, pour interpréter ou en tout cas comprendre le plus de musique possible.
Christian Chamorel, vous êtes pianiste, concertiste, mais vous êtes aussi professeur de piano, hein, c'est ce dont vous nous parlez, et vous êtes aussi directeur artistique de plusieurs festivals, hein, notamment le festival Mont-sur-Lausanne. Est-ce que vous voulez nous parler de cette activité de directeur artistique, et quelle est votre intention quand vous programmez les concerts de ces festivals?
Alors justement, par rapport au Mont Musical, donc qui est ce festival que je dirige au Mont-sur-Lausanne, qui est un festival modeste, hein, c'est donc 3 jours de concerts chaque année. On va d'ailleurs avoir une 10e édition prochainement, là, enfin, si tout va bien. Là, c'était quand même venu justement, bon, on en a un petit peu parlé avant, de remettre un peu le lead et la mélodie au goût du jour, parce que je trouve qu'en Suisse romande, notamment, il y a une certaine méfiance par rapport à la langue allemande en général, on va dire, et le lead en particulier. Et du coup, j'ai toujours voulu, dans les concerts, d'ailleurs, je le fais aussi dans des concerts donc que je n'organise pas moi-même, j'aime beaucoup parler, en fait, du répertoire que je vais jouer, essayer de justement, là aussi, d'avoir une démarche pédagogique, on va dire, avec le public, donner un peu le contexte des pièces et puis donner des clés d'écoute. Et du coup, forcément que c'est dans les festivals qu'on crée soi-même qu'on peut faire ça le mieux, même si, comme je l'ai dit, je fais en sorte d'amener ça dans pratiquement chacune de mes interventions, en tout cas quand le contexte s'y prête.
Et comment est-ce que vous amenez ça, justement, ces œuvres que vous voulez faire découvrir? Vous avez un dialogue avec le public, vous présentez les œuvres?
Oui, alors je commence par parler un petit peu du contexte, je parle du compositeur. Il y a souvent des anecdotes qui sont très drôles à raconter sur une pièce. Par exemple, je sais pas, le quintet de Schumann, la première, tout le monde était présent, il y avait Liszt, je sais plus qui, mais je veux dire, les gens sont très très friands de ce genre d'anecdotes parce que du coup, ça humanise beaucoup aussi la personne du compositeur. Donc ça, je le fais. Et puis après, je vais peut-être même de temps en temps jusqu'à me mettre au piano avant de jouer et puis jouer peut-être 2-3 passages pour leur montrer, voilà, des choses qui sont saillantes, en fait, dans la compréhension des pièces. Et je dois dire que cette approche est vraiment très fructueuse. J'ai beaucoup plus, en fait, de feedback de gens qui viennent me voir dans les loges après les concerts, qui me disent « Ah, mais vos introductions étaient fantastiques !» plutôt que « Ah, vous avez très bien joué ce quintet de Schumann ». Donc, les gens retiennent ça parfois même plus que la pièce en elle-même. Et là, je dois dire que je souhaite vraiment poursuivre ça et peut-être même un peu approfondir cette veine à l'avenir.
Effectivement, j'ai été moi-même plusieurs fois témoin de vos introductions d'œuvres et je les trouve toujours très très à propos, très très agréables, très instructives. Un festival, c'est avant tout des rencontres. Et le prochain extrait, alors ce sera pas du Mendelssohn, c'est du Ernest Chausson, la Sicilienne opus 21 pour violon, piano et quatuor à cordes. Est-ce que, Christian Chamorel, est-ce que vous voulez nous présenter vous-même les musiciens de cet extrait que vous avez choisi?
Ah, alors il s'agit de Rachel Colli-D'Alba, donc la violoniste avec qui j'ai une relation professionnelle depuis maintenant très très longtemps, j'ose même pas le dire. Ça doit faire, ça fait plus de 20 ans en tout cas, largement. Et c'est le quatuor spectral en fait qui vient de Chicago, qui nous accompagne. Ça a été une très belle collaboration, aussi une collaboration très sympathique dans le sens où on a pu jouer là-bas aussi à Chicago, trouver une autre culture, un autre type de public, donc une belle expérience, une belle aventure humaine.
Et quelle est la différence entre ce public de Chicagoans et le public suisse romand?
J'ai trouvé que, mais d'ailleurs je le trouve d'une façon générale aux États-Unis, au Canada, il y a on va dire une fraîcheur peut-être supplémentaire dans ce public-là. Je ne dis pas que le public européen ou suisse est rance ou frelaté. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a peut-être là-bas une certaine innocence, parfois aussi une éducation musicale. Ouais, quoique, je pense que ça dépend vraiment des séries. Mais j'avais l'impression que les gens avaient une approche moins codifiée, finalement, par rapport à la musique. Alors que lorsqu'on donne des concerts en Europe, il y a quand même, parfois, hein, et d'ailleurs j'essaie de décloisonner ça dans mes concerts, mais il y a parfois quelque chose d'un petit peu empesé au début, n'est-ce pas, on va dire le rituel du concert. Et je trouve que là-bas, il y avait quelque chose d'un peu plus spontané.
Et justement, votre façon et votre talent de présenter les œuvres comme ça, avec tant de sympathie, de rendre la musique plus accessible, est-ce que c'est une volonté de vouloir casser ces codes un petit peu pesants pour la musique classique aujourd'hui?
C'est évident, d'autant plus que je trouve qu'en tant qu'interprète, on souffre nous-mêmes un peu de ça, n'est-ce pas? En tout cas, moi, j'en souffre. C'est-à-dire que j'aime vraiment avoir un public. Par exemple, je trouve ça terrible quand le public a envie d'applaudir entre les mouvements et se retient de le faire pour des questions de tradition, de bienséance. Je trouve ça aberrant et à vrai dire, j'encourage plutôt les gens à applaudir entre les mouvements parce que c'est une validation aussi de ce qu'on a fait. Et nous, comme interprète, ça met à l'aise. Moi, je suis ravi quand, après le premier mouvement d'une sonate ou d'un concerto, les gens applaudissent parce que ça me détend pour la suite et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut plutôt encourager et en tout cas pas étouffer.
Eh bien, chers auditeurs, n'hésitez pas à applaudir entre les mouvements et pendant les pauses de cette Sicilienne opus 21 d'Ernest Chausson. Thank you.
Radio Cité Genève.
Il s'agissait de la Sicilienne opus 21 pour violon, piano et quatuor à cordes d'Ernest Chausson, interprété par le pianiste Christian Chamorel, qui est notre invité, la violoniste Rachel Colli-D'Alba et le Spectral Quartet de Chicago. Christian Chamorel, vous êtes un homme de culture, mais aussi de culturisme. Vous avez le pectoral massif, le deltoïde protubérant, le triceps péninsulaire. Christian Chamorel, d'où vous vient cette passion pour la musculation?
Alors, c'est venu assez progressivement. Je pense qu'à la base, c'est parti simplement d'un mal-être physique, on va dire. Donc, comme beaucoup d'enfants qui font beaucoup de piano ou un autre instrument, hein, j'ai un peu négligé le côté sportif. Et jusqu'à ce que ça me joue un peu des tours au niveau du dos, au niveau de la concentration. Donc, à la base, c'est vraiment venu pour simplement avoir un contrepoids, on va dire, quelque chose qui me permette ensuite d'être plus efficace à l'instrument. Et c'est vrai que je me suis un peu pris au jeu. Alors, ça a été aussi très fluctuant, hein. Je ne prétends pas du tout être l'image même de la discipline, hein, dans ce domaine-là. Mais je dois dire que c'est quelque chose qui, effectivement, s'est avéré très, très bénéfique et qui m'a finalement aussi, je pense, aidé pour mon travail à l'instrument, non seulement en termes de posture, hein. C'est vrai que c'est quand même très important pour nous autres pianistes, mais aussi simplement pour une capacité de concentration. Par exemple, après une bonne séance de musculation, vous serez sans doute fatigué physiquement, mais vous aurez les idées claires. Vous serez un peu vidé, mais dans le bon sens du terme, mentalement. Et j'ai toujours eu l'impression que c'était dans ces moments-là où notre capacité d'absorption était la meilleure, finalement, dans le travail personnel.
Et est-ce que vos progrès en musculation ont une influence jusqu'au son que vous produisiez avec le piano?
Alors, j'espère que c'est le cas. Je pense que ça a été positif. D'ailleurs, je me souviens que lorsque j'avais encore 17-18 ans, mon gros souci technique était de produire du son. Et je me souviens que j'étais à l'aise dans Mozart et dans Mendelssohn, qui nécessitent pas encore, on va dire, un engagement corporel très important, mais je souffrais beaucoup dans Brahms et dans la musique russe, parce que je voyais bien que quelque chose manquait. Alors, je ne dis pas qu'il faut nécessairement soulever de la fonte pour pouvoir jouer Rachmaninoff. Je pense que ça peut aider si, naturellement, on n'a pas tout de suite, en fait, cette utilisation instinctive correcte du corps comme levier pour produire du son. Donc, je pense que, effectivement, cette masse accrue m'a aidé à comprendre certains mécanismes de production du son pour le répertoire pianistique.
Et concrètement, c'est un entraînement quotidien? C'est combien d'heures par jour?
Non, alors en ce moment d'ailleurs, c'est très... Bon, là j'ai démarré un petit programme quand même maison, parce qu'il faut bien faire avec la fermeture des salles. Je dirais que dans les bonnes périodes, j'étais à 4 séances par semaine. Parfois c'est moins, parfois c'est peut-être un petit peu plus, mais rarement. Bien sûr que ça dépend aussi beaucoup de mon activité. Là, il se trouve qu'on est un petit peu au point mort, donc j'en profite pour remettre certaines choses en place, on va dire. Mais enfin voilà, en tout cas, maintenant ça fait quand même quelques années que j'ai un rythme relativement soutenu et j'espère que ça va que ce sera bénéfique encore pendant quelques années.
Curiosité toute personnelle, si vous avez un concert le soir, vous vous préservez pendant la journée ou vous faites quand même votre entraînement?
Alors, peut-être que je ferai un petit peu de cardio, mais je pense pas que je m'amuserai à essayer de dépasser mes records en développé couché, par exemple.
Qu'est-ce qui est le plus fatigant? C'est une heure de récital de piano avec des œuvres très virtuoses ou une heure en salle de musculation?
Alors, normalement, l'heure en musculation, elle est fatigante et en même temps, il y a cette espèce d'euphorie qui vient, n'est-ce pas, dans la fin de l'entraînement avec les hormones qui se déclenchent. Je pense que le concert est peut-être plus astreignant mentalement, ça c'est évident, et on se sent peut-être plus vidé à la fin d'un concert qui nous a demandé beaucoup d'efforts. Je pense aussi que tout dépend bien sûr du niveau de stress qu'on a avant le concert en question. Tout dépend aussi de comment on le vit sur scène. On sait très bien comment c'est, n'est-ce pas, en tant qu'interprète. On peut, par exemple, survoler un récital et puis être dans la zone, on va dire, du début jusqu'à la fin, et finalement, ça passe comme une lettre à la poste. On peut aussi avoir des moments un peu plus, on va dire, de combat pendant un récital ou pendant un concert. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de paramètres, en fait, qui vont changer la donne de ce point de vue-là.
Eh bien, vous semblez en tout cas bien préparé pour ce combat sur scène. Et nous abordons des sujets aussi larges que vos trapèzes, hein, si j'ose dire. Et nous enchaînons tout de suite avec un morceau très costaud. Hein. Il s'agit du premier concerto de Mendelssohn et de son premier mouvement, interprété par Christian Chamorel, pianiste et notre invité. Thank you. C'était le premier mouvement du premier concerto pour piano de Mendelssohn, interprété par Christian Chamorel, pianiste, notre invité de ce jour. Christian Chamorel, vous n'échapperez pas à la question qui tue. Vous êtes pianiste, vous êtes aussi culturiste. Au fond, ne rêvez-vous pas de devenir aussi massif que votre instrument, aussi large que son répertoire?
Alors, je ne pensais pas qu'on allait continuer en fait dans cette veine-là. Non, j'ai des ambitions qui sont finalement très, très raisonnables et très saines. D'ailleurs, je suis plus tout jeune, donc je sais en fait que ma fenêtre d'opportunité, comme disent les anglo-saxons, se réduit. Donc non, c'est pas ce que je vise. Je vise vraiment le bien-être. Après, si ça peut donner quelques photos rigolotes sur les réseaux sociaux, je ne crache pas dessus. Je pense aussi que c'est pas mal aussi pour son image, pour rajeunir aussi l'image de la musique classique, pour montrer que nous autres musiciens, d'ailleurs je ne suis pas le seul à cette table à faire ce genre de choses, on ne vit pas nécessairement que pour le piano, on a aussi nos activités annexes qui paraissent très exotiques, on va dire, pour le mélomane qui peut penser qu'on est dans une espèce de sacerdoce avec juste l'instrument et juste la musique. Je pense que c'est très important de montrer qu'on a aussi ces aspects-là, ça nous rend plus accessibles.
Accessible, c'est un mot qui revient souvent de votre part, Christian Chamorel. Et pourtant, vous êtes quand même un pianiste traditionnel et tout à fait excellent. Merci d'avoir été notre invité pour l'émission Entre les âges, présentée par François-Xavier Poisat. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à Olivier Steinmetz pour la production. Et quittons-nous maintenant en dansant avec la gigue en sol majeur K574 de Mozart, interprétée par Christian Chamorel. Merci beaucoup et à bientôt sur Radio Cité Genève.
Merci.